L'accent des autres, c'est votre rendez-vous avec l'actualité francophone de la semaine, votre rendez-vous avec les médias francophones publics, France Inter, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, la RTBF et RFI. Et nous allons aujourd'hui revenir tout d'abord sur les suites de la mort de George Floyd aux États-Unis, avec ses manifestations contre le racisme un peu partout, un racisme encore bien trop souvent banalisé. Ces manifestations qui ont aussi fait polémique, alors que les grands rassemblements sont toujours intéressants. Interdit théoriquement. Des milliers de personnes se sont pourtant réunies ces derniers jours et en Suisse notamment, certains s'offusquent que la police n'ait pas empêché ces rassemblements. Le secteur aérien sérieusement touché par la crise du Covid-19 à Bruxelles après les difficultés de la compagnie Brussels Airlines, le bagagiste Swissport dépose le bilan, 1500 emplois sont menacés. Au Canada, le gouvernement s'apprête à régulariser le statut de quelques milliers de demandeurs d'asile. Ils ont travaillé dans le milieu de la santé pendant la crise. Enfin, au moment où la grande majorité de l'Europe se déconfine progressivement, l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète d'une augmentation rapide des contaminations sur le continent africain. Plusieurs polémiques donc cette semaine autour de manifestations qui se sont tenues un peu partout pour dénoncer le racisme. On va y revenir dans un petit instant, mais d'abord deux témoignages, si vous le voulez bien, en France. Plusieurs manifestations s'y sont tenues cette semaine, à Paris par exemple, à Lille, à Marseille ou encore à Lyon. Et en marge de ces rassemblements, Faustine Calmel a rencontré deux jeunes filles pour France Inter, deux jeunes victimes de ce racisme qui se manifeste souvent par des paroles, par des actes humiliants. Maëlys et Ambre sont noires, elles ont 17 et 18 ans.
C'est en se promenant dans les rues de Versailles en bas de chez elles, territoire connu, que les deux jeunes filles ont fait leur première expérience brutale du rejet.
Je me suis déjà fait cracher dessus quand je marchais dans la rue.
Même quand je marche avec mon copain qui est blanc, il se fait insulter, genre « t'as pas le droit de faire ça, fils de Satan », des choses horribles.
Reliées directement, disent-elles, à cette couleur noire qui leur colle à la peau.
En fait, la première chose que les gens y voient quand ils nous regardent, c'est pas notre personne nous-mêmes. Quoi qu'on fasse, ce sera toujours que notre couleur de peau qui comptera en fait.
Des regards, des mots qui heurtent et des gestes aussi déplacés.
On va se permettre de toucher mes cheveux et d'émettre des réflexions du style « Ah, c'est original, on est des bêtes de foire ». Moi, c'est des choses que je me demande au fond, je me dis « Mais pourquoi ferais-je jamais ça à quelqu'un qui a les cheveux lisses ?»
Ambre et Maëlys sont alors des choix d'orientation, elles se sentent comme freinées dans leurs ambitions.
Je suis dans un très bon lycée, que je sois en terminale S, ça choque les gens puisque... Il y a une sorte de cliché que toutes les personnes de couleur, soit elles sont déscolarisées, elles vont en lycée professionnel ou technologique.
Pourquoi avocate? Mais comment tu vas faire? Comment tu vas accéder à cette école? Bah, je vais travailler comme tout le monde. C'est plutôt à moi de retourner en fait le problème. Pourquoi ces questions?
Des questions jusqu'à en perdre confiance.
Au final, on finit par croire qu'on n'y arrivera jamais, qu'aucune personne de couleur n'y est parvenue avant. Donc pourquoi nous en fait? On vit quand même dans un système qui ne veut pas de nous. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne.
Et quand on raconte tout cela, conclut Maëlys, on nous répond que nous nous victimisons. Elle a décidé malgré tout de ne plus se taire.
Voilà des témoignages recueillis donc en marge de ces nombreuses manifestations ces derniers jours pour dénoncer le racisme. Ils étaient par exemple 10 000 à Genève en Suisse mardi dernier. Ces manifestants ont donc bravé l'interdiction toujours en vigueur de se réunir à plus de 300 personnes, Pierre Anchoffat.
Et s'ils étaient nombreux à porter un masque, ce n'était clairement pas le cas de tout le monde. Les organisateurs ont bien tenté de rassembler des groupes de 300 personnes séparées les uns des autres pour respecter les consignes des autorités. Mais avec une telle affluence, cela s'est révélé impossible. Les images de la manifestation ont évidemment fait réagir, notamment sur les réseaux sociaux, avec des formules comme « Les malades futurs du Covid vous remercient » ou encore pour signifier l'étonnement de règles strictes pour les restaurants qui doivent espacer les tables de 2 mètres, alors que la police s'est contentée d'observer le cortège.
Oui, il y a une forme d'incompréhension, donc pour certains, Pierre, d'autant que les autorités ont toléré ces manifestations.
Eh bien, c'était le cas le week-end dernier déjà à Lausanne, Bâle ou Zurich. Pour les forces de police, il aurait été disproportionné d'intervenir, voire totalement contre-productif, dans le contexte de manifestations qui dénoncent notamment les violences policières. À Genève, le gouvernement cantonal a même autorisé le cortège à la manœuvre Mauro Poggia, ministre à la fois de la santé et de la sécurité.
Si depuis 3 mois je tiens un discours responsabilisant à l'égard de la population, ce n'est pas avec gaieté de cœur que je vois 10 000 personnes défiler, mais grâce à un service d'ordre des organisateurs, nous avons pu quand même canaliser cette manifestation. Nous sommes même allés jusqu'à distribuer des masques aux organisateurs. Nous voulions que cela se passe le mieux possible. Je pense que rétrospectivement, on peut dire que ça a été le cas. Maintenant, au niveau sanitaire, ce n'est pas optimal. Je partage volontiers cette opinion.
Autrement dit, une pesée d'intérêts et puis le constat aussi qu'une cause légitime rend tout simplement impossible d'empêcher plus longtemps l'expression d'un droit démocratique essentiel.
Oui, et polémique identique à Bruxelles, là aussi lors d'une manifestation, polémique entre le bourgmestre, le maire socialiste de Bruxelles et le Parti libéral, le parti de la première ministre belge. La manifestation n'aurait pas dû se tenir, estiment les libéraux. Les autorités cherchent maintenant comment concilier liberté d'expression, manifestation donc, et respect des règles sanitaires toujours d'application. On va rester à Bruxelles où la semaine a aussi été marquée par la faillite du bagagiste Swissport. 1500 emplois sont menacés et les travailleurs sont en colère.
On est sur le carreau, il y a des gens qui vivent avec maintenant 600 euros par mois, qui se retrouvent sans rien, sans rien. C'est 1500 emplois, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi. Je suis désolé, ici on est là pour s'exprimer, pour se soutenir l'un l'autre et montrer qu'on est solidaires. C'est tout, c'est tout. On a besoin de travailler, on n'est pas ici pour... On a donné des heures, on a donné notre temps. On a sacrifié, c'est vrai qu'on a un salaire, mais le travail de l'aéroport, c'est pas un travail facile, c'est pas donné à tout le monde. Il doit y avoir des qualifications et on nous met sur le carreau comme si on était des malpropres. Et ça, c'est pas admissible, je suis désolé.
Cette faillite n'est pas une surprise. Bien sûr, le coronavirus n'a rien fait pour arranger les choses, mais la société Swissport Belgique n'allait pas bien depuis quelque temps, la direction le reconnaît.
Il est clair qu'aujourd'hui, même avant la crise, nous avons pâti de pressions extrêmement fortes sur les prix qui ont réduit nos marges de façon extrêmement importante. Et en face de ça, des coûts de fonctionnement élevés. Ces dernières années, ça a été assez compliqué en fait d'arriver à redresser la situation, même si la tendance commençait à s'améliorer. Un plan avait été mis en place avant la crise et malheureusement, la crise a mis tout à plat.
Swissport Belgique en faillite donc, mais Swissport, c'est une société dont le nom reste surtout assez logiquement attaché à la Suisse, Pierron.
Externalisé, Swissport a échappé au grounding et à la faillite de la compagnie Swissair il y a près de 20 ans. Certes, toujours basée en Suisse, l'entreprise a été rachetée par le groupe chinois Achena il y a 5 ans, une société mère qui n'a jusqu'ici pas voulu injecter d'argent frais en dépit d'un chiffre d'affaires qui s'est effondré de 80% en avril. Son directeur Eric Born a déclaré le 20 mai dernier que Swissport ne ferait pas faillite. Il ne pensait sans doute pas à sa filiale belge.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Au Canada, cette fois, Manon Glomaski, ce geste de reconnaissance du côté du gouvernement, il va accorder la citoyenneté canadienne à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de réfugiés demandeurs d'asile qui travaillent dans le milieu de la santé.
Certains réfugiés africains ont marché jusqu'au Canada depuis le Brésil. D'autres viennent d'Haïti. Ils demandent tous l'asile au Canada et éventuellement la citoyenneté. Durant les longues procédures, ils peuvent avoir des permis de travail et les voilà aides-soignants, agents de sécurité, préposés à l'entretien dans les hôpitaux et les résidences pour aînés. Comme tous les travailleurs de la santé, ils ont risqué la leur pour œuvrer auprès des malades sans se poser de questions. L'avocat de l'immigration, Guillaume Clich-Rivard, dit que pour eux, recevoir sans autre complication le passeport canadien va faire toute la différence.
Il fallait trouver une façon de remercier ces gens-là pour leur travail exceptionnel dans une situation exceptionnelle. Alors, je pense que c'est le bienvenu et aujourd'hui, beaucoup de gens sont soulagés. Beaucoup de familles vont pouvoir dormir sur leurs deux oreilles ce soir.
Voilà pour l'avis de cet avocat. Donc, le gouvernement, Manon, va tout de même imposer quelques conditions avant d'en faire des citoyens canadiens.
C'est environ 1 millier de personnes au Québec et plus 1 millier dans le reste du Canada qui se qualifient pour ce programme spécial d'octroi de la citoyenneté, c'est-à-dire qu'elles ont travaillé au moins 4 semaines dans le milieu de la santé, qu'elles demandent l'asile même si elles sont en appel d'une première décision défavorable et qu'elles ont un permis de travail valide. Et maintenant que le programme existe, d'autres demandeurs d'asile qui ont travaillé dans un autre secteur essentiel, l'alimentation, lèvent aussi la main pour obtenir la même reconnaissance.
Enfin, on va terminer sur le continent africain. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'est pas très optimiste puisqu'elle s'inquiète d'une augmentation, augmentation rapide des contaminations.
Oui, Olivier, selon le bilan publié cette semaine par l'OMS, 200 000 personnes ont été testées positives depuis l'arrivée du nouveau coronavirus sur le continent africain. Il a fallu 3 mois pour arriver à 100 000 cas et seulement 19 jours de plus pour arriver au double. L'Organisation mondiale de la santé note aussi une progression disparate de l'épidémie. Selon les données recueillies sur le terrain, 5 pays concentrent 70% des cas recensés. L'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, le Soudan et l'Afrique du Sud.
Et l'enjeu maintenant, Amélie, c'est donc de limiter la cadence de cette augmentation.
Et la difficulté, Olivier, c'est que les restrictions et les mesures de confinement sont très impopulaires. On en a parlé la semaine dernière. Elles sont aussi compliquées, ces mesures, à tenir sur la durée dans des pays où l'économie informelle est importante, c'est-à-dire où beaucoup de gens n'ont pas de salaire fixe, pas de sécurité sociale. Cette semaine, en République démocratique du Congo, le prix Nobel de la paix, le gynécologue Dr Denis Mukwege, a démissionné de ses fonctions au sein de la riposte anti-Covid. Il déplore notamment dans son pays l'absence de tests, les délais pour envoyer les prélèvements à Kinshasa, la capitale, et ensuite attendre les résultats. Il regrette aussi un relâchement dans les mesures de prévention, l'impossibilité de faire respecter les gestes barrières et les besoins d'isolement des personnes testées positives. Pour le docteur Denis Mukwege en RDC, le pays est au début d'une courbe épidémiologique exponentielle.
Oui, Denis Mukwege, gynécologue connu internationalement, qui répare littéralement les femmes victimes de viols et de sévices dans l'est du Congo. Merci à tous. C'était l'accent des autres, l'actualité francophone de la semaine avec les médias francophones publics, RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, France Inter et la RTBF. Excellent week-end et rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine à la même heure.